Revenez du Credo de Nicée à l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Volume 1. Paul Sidjon. Veuillez noter ce qui suit. Les citations bibliques utilisées dans ce livre sont tirées de la Louis II 1910 et de la New King James Version. Préface. Tout d'abord, je voudrais clarifier brièvement la terminologie utilisée dans ce livre. Historiquement, le symbole a été établi pour la première fois au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Il a été plus tard complété et élargi au Concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ, achevant la forme que l'Église appelle aujourd'hui généralement le symbole de Nicée. À proprement parler, cette version de 381 devrait être appelée le symbole de Constantinople ou le symbole de Nicée-Constantinople. Cependant, parce que ce livre se concentre sur le symbole de Nicée de 325, qui a servi de point de départ, et sur ses changements ultérieurs, l'expression « symbole de Nicée » est utilisée de manière cohérente dans tout le corps du texte pour éviter toute confusion au lecteur. Nous demandons à nos lecteurs, lorsque le nom « symbole de Nicée » apparaît dans ce livre, de garder à l'esprit le contexte historique selon lequel ce symbole a été par la suite révisé et finalisé à Constantinople pour devenir le symbole d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le symbole de Nicée ? Le symbole de Nicée, tel qu'il est utilisé par l'Église aujourd'hui, est une confession de foi qui a été promulguée pour la première fois au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ et établie par des compléments et des élargissements théologiques en 381 après Jésus-Christ. Le symbole que l'Église appelle actuellement le symbole de Nicée est, en fait, la forme finalisée en 381. Ce symbole a été promulgué pour résoudre la confusion théologique et les controverses auxquelles l'Église faisait face à l'époque, et pour permettre aux églises à travers tout l'Empire romain de se tenir sous la même foi. Le contexte historique de l'établissement du symbole de Nicée inclut plusieurs raisons importantes. Premièrement, il était nécessaire de compléter les premiers symboles parce que leurs déclarations concernant le Saint-Esprit étaient très brèves et incomplètes. Bien que l'Église de cette époque ait réussi à confesser la divinité et la consubstantialité du Fils, le débat sur la divinité du Saint-Esprit restait non résolu. Surtout alors que des idées niant la divinité du Saint-Esprit, telles que celles des Macédoniens, se répandaient, il est devenu nécessaire de formuler une foi correcte concernant le Saint-Esprit. Deuxièmement, il était nécessaire de conclure la controverse arienne, qui avait duré environ 50 ans, et que tout l'Empire romain partage une seule norme de foi. Dans cette situation, le Concile a considérablement élargi et organisé le symbole existant, le finalisant comme une confession de foi complète. Le contenu du symbole de Nicée se compose de sections sur Dieu, le Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église et le baptême, et l'espérance de la résurrection. Dieu y est confessé comme Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il confesse que Jésus-Christ est vrai Dieu, engendré du Père, qui pour le salut de l'humanité s'est incarné, a souffert et est mort sur la croix, et est ressuscité. Et l'on croit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Dans le symbole de Nicée, lors de son processus de confirmation finale en 381, la confession théologique concernant le Saint-Esprit a été détaillée pour la première fois. À cette époque, il est confessé que le Saint-Esprit est le Seigneur et celui qui donne la vie, qui procède du Père. De plus, il est confessé comme Dieu qui, avec le Père et le Fils, reçoit gloire et adoration, et comme celui qui a parlé par les prophètes. C'est une confession importante qui a officiellement établi la divinité et la personnalité du Saint-Esprit. Ce symbole contient aussi une confession concernant l'ecclésiologie et les sacrements. C'est-à-dire qu'il déclare la croyance en l'Église une, sainte et apostolique, confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et déclare la croyance en la résurrection future du corps et la vie éternelle. Dans cette déclaration, le baptême est défini comme un sacrement de l'Église pour la rémission des péchés, et il forme le fondement théologique du système sacramentel qui s'établissait à l'époque. Cependant, Ce qui est supprimé de ce symbole est le message que l'Église primitive proclamait de manière importante, selon lequel Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde. En d'autres termes, il n'y a aucune mention du baptême que Jésus a reçu de Jean. La perspective évangélique de l'Église primitive, à savoir que Jésus a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui et lavant les péchés du monde, a été supprimée du symbole, et à la place, une compréhension du salut centrée sur la croix est devenue la structure du symbole. Ce symbole revêt une grande importance historique en tant que norme de foi ayant établi la théologie trinitaire, mais en même temps, la suppression du lien de l'évangile du salut, à savoir que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, est devenue une faille. Par la suite, alors que la théologie scolastique, le système des sept sacrements et l'institution de la confession s'établissaient, l'Église catholique s'est progressivement éloignée de la structure de l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'Église primitive avait prêché. En conclusion, le symbole de Nicée est le symbole standard qui a parachevé la doctrine de la Trinité, mais il peut être compris comme un tournant dans la doctrine théologique où la compréhension de l'Église primitive concernant le baptême de Jésus a été omise et où un système doctrinal centré sur la croix a été établi. Examinons les aspects positifs du symbole de Nicée. Le symbole de Nicée fut le fruit des efforts de foi sincères de l'Église primitive, née au milieu d'une histoire de l'Église chaotique. À cette époque, au IVe siècle, l'Église était attaquée de l'extérieur par l'Empire romain, et à l'intérieur, elle était mêlée à de féroces controverses sur l'essence de Jésus-Christ et la divinité du Saint-Esprit. Dans cette crise, l'Église a ressenti le besoin d'établir par la foi une vérité ferme concernant Dieu la Sainte Trinité. En conséquence, une unique confession de foi a été publiquement établie. Ce symbole de Nicée contient justement l'intention ardente de l'Église de cette époque de préserver l'Évangile. La signification devient encore plus profonde en ce que, alors que le symbole de Nicée était finalisé en 381, la pleine divinité de Jésus-Christ a été déclarée encore plus clairement. Ce symbole de Nicée élargit a formalisé la confession selon laquelle Jésus-Christ est vrai Dieu, et en même temps, il a conduit l'Église entière à accepter publiquement la foi selon laquelle le Saint-Esprit est aussi Dieu. Cette déclaration est devenue le point de départ de l'établissement de la christologie et de la doctrine de la Trinité, et elle a servi de fondement important pour le développement théologique au sein de la tradition de l'Église. De plus, ce symbole a joué un rôle crucial pour systématiser formellement la doctrine de la Trinité. Une structure a été clairement présentée dans ce symbole, dans laquelle le Père est le Créateur, le Fils a été engendré du Père et a accompli l'œuvre rédemptrice pour l'humanité, et le Saint-Esprit est Dieu qui reçoit la même gloire et la même adoration avec le Père et le Fils. Ce fut un événement qui a présenté la direction à suivre pour la théologie systématique et le système doctrinal de l'Église universelle. À cette époque, de nombreuses idées hérétiques telles que l'arianisme et le macédonisme émergeaient au sein de l'Église, menant à une situation où les systèmes de foi étaient fragmentés par régions et par dirigeants. Au milieu de cette confusion, le symbole de Nicée a agi comme un bouclier théologique et pastoral destiné à minimiser la division en fournissant à l'Église une norme unique et publique. Bien sûr, on ne peut nier que des facteurs politiques étaient impliqués, mais ils contenaient clairement une volonté commune de protéger, à tout le moins, une seule foi. Ce symbole a également fourni une forme de foi qui pouvait être confessée publiquement dans le contexte du culte et du baptême. Le fait qu'il ait élargi la simple confession de la question baptismale de l'Église primitive, « Croyez-vous en Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit ?» et présenté un langage par lequel toutes les églises locales pouvaient confesser la même foi de leur bouche, fut un fait marquant dans l'histoire chrétienne. Enfin, le symbole de Nicée est positif en ce sens qu'il n'a pas été créé avec l'intention de remplacer la Bible. Ce symbole n'est pas un document qui explique l'Évangile entier, mais simplement une déclaration résumant le cœur de ce que l'Église croit, et il n'a pas été présenté comme un outil donnant le salut. Son but résidait uniquement dans l'organisation et la protection, et il s'est limité à établir la structure fondamentale de la foi. En conclusion, le symbole de Nicée, bien qu'il ne soit pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui donne le salut lui-même, est significatif en ce qu'il fut une tentative historique de l'Église pour organiser et protéger la structure de la foi au milieu d'une sévère confusion théologique. Les points selon lesquels il a clarifié la divinité du Christ et la divinité du Saint-Esprit, qu'il est devenu le fondement de l'établissement de la doctrine de la Trinité, qu'il a cherché à empêcher la division de l'Église, et qu'il a préparé une forme pour la confession publique de la foi, peuvent être qualifiées d'évaluations positives claires. Examinons les aspects négatifs du symbole de Nicée. Le problème le plus essentiel du symbole de Nicée réside dans le fait que la vérité centrale de la Bible, à savoir que Jésus a vu les péchés du monde lui être transférés en une seule fois lorsqu'il a été baptisé par Jean, a été complètement effacée de la structure de la foi. Cette suppression n'était pas une simple omission d'une seule phrase, mais un tournant historique qui a changé la parole même de l'évangile du salut que l'Église primitive croyait et prêchait. L'Église primitive croyait et enseignait l'évangile selon lequel Jésus, en étant baptisé par Jean, avait reçu le transfert des péchés du monde sur lui, les avait lavés en une seule fois, et que le salut était accompli par le jugement du péché sur la croix. Cependant, le fait est qu'après la rédaction du Credo, l'Église a mis l'accent uniquement sur la croix et l'a proclamé en supprimant le ministère du baptême par lequel Jésus a lavé les péchés du monde en se les faisant transférer par son baptême reçu de Jean. En d'autres termes, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit en est venue à disparaître. Au lieu de tirer profit de la création du symbole de Nicée, l'Église a fini par perdre la parole de l'évangile de vérité, de l'eau et de l'esprit. Alors que le symbole de Nicée était élaboré et proclamé en 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain est devenu le chef de l'Église et, à partir de ce moment-là, l'Église est devenue une Église appartenant à l'Empire romain. Finalement, le symbole de Nicée est devenu le credo de l'Église catholique romaine, ayant perdu la parole de l'évangile du salut que le Seigneur a accompli tout en une fois en lavant les péchés du monde par son baptême reçu de Jean et en étant pendu à la croix. À cause de ce symbole de Nicée, la parole de l'évangile selon laquelle Jésus a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste a fini par être traitée comme un sujet dont il ne fallait plus parler. À l'origine, l'Église primitive témoignait du baptême de Jésus comme étant le cœur de l'Évangile, mais après l'établissement du symbole de Nicée, la question de l'Évangile a changé. C'est-à-dire que la norme de la foi a été complètement inversée, passant de la question biblique « Comment Jésus nous a-t-il sauvés des péchés du monde ?» à la question « Quel credo devons-nous croire et confesser ?» Dans ce processus, la doctrine du symbole de Nicée, soutenue par le pouvoir de l'empereur, s'est établie comme la norme absolue de la foi, et ceux qui ne reconnaissaient pas théologiquement la doctrine du credo devenaient passibles d'exécution. Comme le symbole de Nicée, et non la parole de la Bible, s'est combiné à l'autorité de l'empereur, l'évangile de vérité que les saints de l'Église primitive croyaient et prêchaient, à savoir que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a finalement été repoussé dans les ruelles de l'histoire. Par conséquent, à partir de cette époque, les gens ont dû placer l'acceptation du symbole de Nicée reconnu par l'empereur au-dessus de la parole de vérité selon laquelle Jésus-Christ a lavé les péchés du monde en se les faisant transférer par son baptême reçu de Jean. En conséquence, le concile de Nicée en est venu à monopoliser l'autorité d'interpréter la Bible, et le système centré sur le clergé a été renforcé. Les membres ordinaires de l'Église ont été réduits à l'état d'êtres qui n'étaient plus censés réaliser directement la vérité de Dieu à travers la Bible. Le fait est qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ceux qui croyaient en Jésus ont été réduits au rang de personnes devant se soumettre et obéir, pressés par l'autorité de l'empereur et l'autorité de ceux qui avaient élaboré le symbole de Nicée. Cette tendance est devenue une force absolue pour construire plus tard la structure de foi institutionnalisée et le système religieux de l'Église catholique centré sur les prêtres. Finalement, ils ont commis l'erreur de faire suivre aux gens le symbole de Nicée qu'ils avaient fabriqué comme une autorité supérieure aux paroles de la Bible, qui sont un recueil des paroles prononcées par Dieu. Et le symbole de Nicée a atteint son objectif de rendre l'Église catholique dépendante des décisions du credo qu'ils avaient établi. Le point essentiel est que ce credo n'était pas tant le résultat d'une pure recherche théologique, mais un produit créé au milieu de la coordination politique entre l'empereur et le pouvoir diocésain. À cause de cela, la norme de la foi a dégénéré, passant de la parole de Dieu à une doctrine à laquelle il fallait obéir selon les dictats du symbole de Nicée. Cela est devenu un tournant historique qui a obscurci et altéré l'essence de l'Église de Jésus-Christ que Dieu avait établie. C'est précisément cette partie qui constitue le tort pour lequel l'Église catholique d'aujourd'hui doit assurément se repentir devant Dieu. Ce symbole de Nicée a fini par jouer le rôle d'établir un système rituel centré sur les sept sacrements. En conséquence, la structure a été modifiée de sorte que le salut ne s'obtient pas par la foi en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ne peut être reçu qu'en passant par les sept sacrements définis par l'Église. Un tel credo religieux est finalement devenu une doctrine créée par ceux qui vont à l'encontre de la volonté du Dieu trinitaire pour atteindre leurs propres objectifs. La parole de l'Évangile de vérité par laquelle le Dieu trinitaire sauve les pécheurs des péchés du monde et l'Évangile dans lequel Jésus, en étant baptisé par Jean, a lavé les péchés du monde, est allé à la croix, a versé son sang, est ressuscité des morts et est devenu le sauveur de ceux qui croient. Cependant, le fait est qu'ils ont créé et fait croire aux gens la doctrine du symbole de Nicée, qui n'est pas la vérité selon laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en se les faisant transférer par son baptême reçu de Jean. Finalement, la norme du salut a aussi changé, passant de « croyez-vous en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ?» comme à l'époque apostolique, à « adhérez-vous au symbole de Nicée ?» Le fait est que la foi s'est éloignée de la foi dans les paroles de la Bible et s'est transformée en un système de foi dans le symbole de Nicée. Pour résumer tous ces résultats, le point essentiel est que le symbole de Nicée n'a pas cru en la parole de la vérité centrale de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en se les faisant transférer par son baptême reçu de Jean, mais a plutôt joué un rôle pour l'obscurcir. Ce credo a uni les églises d'Orient et d'Occident, mais il a corrompu l'Évangile, il a établi des doctrines théologiques, mais il a causé la perte de la parole de la vérité de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. À cet égard, on peut dire que ce credo est devenu le tournant décisif qui a provoqué le passage d'une concentration sur la parole de l'Évangile de la vérité du salut chrétien à une concentration sur la doctrine du symbole de Nicée. Le baptême de Jésus, qui manque dans le symbole de Nicée, doit être réinséré. Le thème de ce livre est que nous devons compléter le symbole de Nicée en croyant en la parole de l'Évangile de vérité, que Jésus a été baptisé par Jean, s'est fait transférer les péchés du monde, et les a ainsi ôtés une fois pour toutes. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à réviser le symbole de Nicée existant. C'est dire que la structure de l'évangile du baptême de Jésus, qui a été effacée de l'histoire, doit être restaurée à sa place originelle, et qu'un mouvement est nécessaire pour restaurer l'essence de l'évangile qui précède le credo. En d'autres termes, le but n'est pas de réécrire le symbole de Nicée, mais de restaurer la forme originelle de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que le credo cherchait à l'origine à simplifier. C'est-à-dire que la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi purifié les péchés du monde doit être réincluse dans le symbole de Nicée. Le ministère de Jésus étant baptisé par Jean et se faisant transférer les péchés du monde n'est pas un simple rituel ou symbole, mais le véritable point de départ de l'histoire de la rédemption et l'événement où les péchés du monde ont été transférés à Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre la croix sans le ministère du baptême de Jésus par Jean. C'est parce que la croix est le châtiment pour le péché, qui n'aurait pas pu être exécuté sans le baptême que Jésus a reçu de Jean. La croix est le lieu où le jugement pour le péché est reçu, après que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême. Et la résurrection de Jésus d'entre les morts est l'événement qui prouve que le jugement sur le péché de l'humanité était complet. Par conséquent, la nouvelle naissance est la grâce de Dieu qui s'applique à ceux qui croient en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La structure de l'Évangile biblique doit suivre la séquence « Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, se faisant ainsi transférer le péché, il a ensuite porté le jugement pour ce péché sur la croix, et il a accompli le salut par sa résurrection. » Si le baptême de Jésus par Jean est omis de cela, la croix devient une mort sans cause. Inversement, si seule la croix est soulignée sans le ministère du baptême, le salut se fige en un simple concept théologique et doctrinal plutôt qu'en un événement réel. Les pères de l'Église primitive connaissaient clairement ce fait. La littérature chrétienne et les pères de l'Église antérieure au symbole de Nicée enseignaient le baptême de Jésus comme un événement central de l'Évangile. La Didachée rapporte « Il a porté nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean dans le Jourdain ». Tertullien a déclaré « Le baptême est le premier acte de la rédemption. Ignace a confessé, il nous a engendrés par l'eau et le sang. » Ces témoignages montrent que le ministère du baptême de Jésus par Jean est le commencement du salut et la substance du transfert du péché. Par conséquent, la suppression du ministère du baptême de Jésus par Jean du symbole de Nicée n'était pas une simple erreur, mais un acte intentionnel. Par conséquent, réinsérer dans le symbole de Nicée la parole de l'évangile de vérité, selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi purifié les péchés du monde, et l'œuvre de normalisation de la confession de foi. Le symbole de Nicée a été créé à l'origine pour résumer la vérité que l'Église primitive avait crue, mais un élément crucial de l'Évangile a été omis, ou supprimé au milieu de circonstances historiques et de débats politiques. Par conséquent, ce que nous avons l'intention de faire aujourd'hui n'est pas de construire à nouveau le credo, mais de le corriger afin qu'il soit réaligné sur la Bible et sur la foi de l'Église primitive. En d'autres termes, au sein de la structure conçue du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et a été crucifié, l'événement évangélique a été baptisé par Jean et a pris sur lui les péchés du monde doit être remis à sa juste place. Cette phrase unique devient la clé décisive pour restaurer la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à sa place originelle. Ce travail n'est pas un simple ajout d'une phrase, mais une restauration de l'identité de l'Église. Aujourd'hui, de nombreux croyants hésitent lorsqu'ils sont confrontés à la question « si Jésus était sans péché, pourquoi a-t-il été baptisé par Jean ?» Mais la Bible dit « laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu, chapitre 3, verset 15. Le « tout ce qui est juste » mentionné ici fait référence à la vérité selon laquelle, au moment où Jésus a reçu le baptême par imposition des mains de Jean-Baptiste, les péchés de l'humanité ont été transférés à Jésus, qui est devenu l'agneau de Dieu. Par conséquent, restaurer le baptême que Jésus a reçu de Jean en le réinsérant dans le symbole de Nicée, c'est restaurer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce mouvement de restauration est un ministère auquel l'Église mondiale devra inévitablement faire face à l'avenir. Désormais, la question de la foi doit passer de « reconnaissez-vous que Jésus est Dieu ?» à « reconnaissez-vous le fait que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean ?» Lorsque cette phrase unique sera restaurée, les églises du monde entier se détacheront d'une foi basée sur la récitation centrée sur le symbole de Nicée et reviendront à l'évangile de l'eau et de l'esprit, devenant ainsi ceux qui reçoivent la purification du péché. Alors, la doctrine du salut, qui jusqu'à présent n'a mis l'accent que sur la croix au sein du symbole de Nicée, sera restaurée dans l'évangile complet, à savoir que Jésus est allé à la croix parce que les péchés du monde lui avaient été transférés par son baptême par Jean. Et la structure répétitive, centrée sur les sacrements, retournera à sa place consistant à proclamer la grâce de la rédemption accomplie une fois pour toutes. En conséquence, le statut des croyants sera rétabli de pécheurs à justes, et la doctrine chrétienne trouvera sa juste place en tant que doctrine expliquant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En conclusion, la raison pour laquelle le baptême de Jésus doit être réinséré dans le credo n'est pas pour un simple ajout, mais parce que c'est le chemin vers la restauration de l'Évangile. Au sein de cette structure restaurée, l'Église a l'opportunité de revenir non pas de l'Évangile à la doctrine, mais à une foi qui a reçu l'effacement du péché par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela devient l'opportunité de revenir du symbole de Nicée à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, c'est aussi le devoir de foi que l'Église du XXIe siècle doit entreprendre pour la réforme. C'était une chose exceptionnellement bonne que la doctrine de la croyance en la Trinité ait été établie au Concile de Nicée. L'établissement public de la foi trinitaire au Concile de Nicée fut un tournant très important dans l'histoire chrétienne. À cette époque, l'Église était au milieu d'une grave confusion théologique, et il était nécessaire de définir clairement ce qui constituait la foi orthodoxe. Au milieu de cela, la doctrine de la Trinité n'était pas simplement un produit de débat, mais une détermination théologique pour préserver l'Évangile, et fut une décision très juste qui a établi la norme de la foi crue par l'Église. En particulier, l'Église prénicéenne, tout en survivant au milieu de la persécution et en défendant sa foi, n'avait pas le loisir de systématiser sa théologie, mais lorsqu'un personnage nommé Arius est apparu et a affirmé que le Fils est un être créé et est inférieur à Dieu, la situation a changé radicalement. Cette affirmation n'était pas simplement une christologie modifiée, mais un défi sérieux qui sapait le fondement du salut en niant la divinité de Jésus. Le Concile, discernant cela, a proclamé à travers une déclaration historique « Le Fils est de la même essence, homoousios, que le Père ». Cette confession d'un seul mot fut le moment de confesser Jésus-Christ non pas comme un être créé, mais comme pleinement Dieu, et ce fut un événement qui détermina la direction de la foi chrétienne par la suite. Cette décision est devenue un bouclier qui a protégé notre foi. Si l'arianisme avait été établi comme orthodoxie, Jésus serait simplement resté un bon enseignant ou un être créé utilisé par Dieu. Dans ce cas, la croix n'aurait pas été un événement de salut, mais aurait été interprétée comme un exemple moral, et puisqu'un être créé ne peut pas sauver un autre être créé, la puissance même du salut aurait disparu. Cependant, le Concile de Nicée a rétabli la vérité selon laquelle il est possible pour Jésus d'être le Sauveur parce qu'il est Dieu, et grâce à cela, nous sommes devenus des gens de foi qui reconnaissent et croient également au Dieu Trinitaire, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, comme notre Dieu. Même désormais, nous devons croire que Jésus, qui a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui et purifiant les péchés du monde, et qui est allé à la croix, est devenu un sauveur suffisant pour être notre sauveur. Cette décision revêt une signification au-delà de la simple organisation doctrinale, elle devient une confession de foi qui affirme le fait que seul Dieu peut ôter les péchés, et parce que Jésus est le Fils de Dieu, le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix deviennent notre sacrifice expiatoire. La déclaration de la Trinité fut un événement qui établit une norme pour comprendre harmonieusement la révélation de la Bible entière. La Bible dit que bien que Dieu existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, il est essentiellement un seul Dieu. Cependant, jusqu'avant le Concile, les gens luttaient et étaient confus quant à la manière de comprendre cette vérité. Mais le Concile de Nicée a répondu non pas en simplifiant ou en excluant cette question, mais d'une manière qui respectait toutes les révélations de la Bible. En conséquence, la confession « Dieu est un en essence, mais trois en personne » a été établie, et cela est devenu un discernement théologique important qui a résolu le difficile problème de foi de cette époque. De plus, cette décision a joué un rôle pour protéger l'Église de la division. Si la foi en la Trinité n'avait pas été publiquement établie, des compréhensions différentes de Jésus et des structures différentes de l'Évangile auraient surgi à chaque époque et dans chaque région. Le Concile de Nicée a établi la norme selon laquelle l'Église est une, la foi est une, et le Christ est un. Cela est devenu un événement décisif qui a protégé le christianisme, garantissant qu'il puisse rester une communauté qui partage le même évangile de l'eau et de l'esprit, et non une croyance philosophique ou une tradition religieuse régionale. Certains érudits tentent d'évaluer cette décision non pas comme de la théologie, mais comme un produit politique, mais les sources historiques réelles montrent que c'était le résultat d'un dévouement et d'un sacrifice pour protéger la foi de la vérité. De nombreux pères de l'Église, y compris Athanase, ont été exilés, incompris, et ont enduré pression et épreuves pour protéger cette vérité. Pour eux, la conclusion du credo de Nicée consistait à reconnaître et protéger la foi au Dieu Trinitaire, d'autre part, cela a aussi conduit au résultat de perdre l'évangile de Jésus prenant sur lui les péchés du monde par son baptême par Jean. En conclusion, l'établissement de la foi en la Trinité au Concile de Nicée n'était pas simplement une bonne chose, mais une victoire historique qui a protégé l'Église primitive contre la perte des racines de l'Évangile. Sans cette décision, Jésus serait resté un simple prophète ou un modèle moral. Cependant, le fait est que ce fut aussi un processus douloureux de perte de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité que Jésus a purifié les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Maintenant, à partir de ce point, nous devons continuer notre voyage avec les questions suivantes. La Trinité est correcte, mais pourquoi le baptême de Jésus a-t-il été omis au sein de cette foi trinitaire? Et la foi trinitaire et l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent-ils être en opposition? Ou est-il juste qu'ils se complètent pour accomplir la bonne volonté de Dieu? Cela signifie que l'effort de discuter et d'étudier ces questions est nécessaire pour nous. Nous devons absolument croire en la doctrine de la Trinité. Lorsque nous disons que nous devons absolument croire en la doctrine théologique de la Trinité, ce n'est pas une confession au niveau d'une simple récitation doctrinale, ou d'un accord avec une formule théologique. Cette déclaration est une attitude de foi qui accepte sans distorsion la révélation que Dieu donne de lui-même et dont témoigne la Bible entière. Cela devient une reconnaissance de la manière dont Dieu s'est révélé et de l'œuvre par laquelle il a sauvé les pécheurs du péché. La parole biblique ne présente pas simplement Dieu comme un seul être. En même temps, elle témoigne clairement des personnes distinctes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leurs œuvres. Dieu le Père est celui qui a établi le plan du salut, le Fils Jésus est celui qui a accompli son plan avec son propre corps, et Dieu le Saint-Esprit est celui qui œuvre en appliquant réellement le salut accompli par le Fils Jésus en ceux qui croient. Par conséquent, croire en la Trinité est la foi de la vérité qui accepte Dieu tel qu'il est révélé par la parole biblique, et non partiellement. La doctrine de la Trinité est un cadre important qui montre l'ordre de l'œuvre de salut de Dieu. La parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la déclaration que Jésus est devenu notre Sauveur en étant baptisé par Jean, les péchés du monde lui ayant été transférés, en allant à la croix, en y étant cloué, et en ressuscitant des morts. En d'autres termes, c'est l'histoire complète du salut accompli par la coopération du Dieu trinitaire, le plan du Père, l'obéissance du Fils, et l'application de l'Esprit. Le Père a planifié le salut, et le Fils a accompli le plan de Dieu de sauver ceux qui croient par la croix et la résurrection, en portant les péchés du monde à travers le baptême qu'il a reçu de Jean. Le Saint-Esprit garantit que le salut accompli ne devienne pas un échec en ceux qui croient. Par conséquent, si l'on essaie de comprendre l'Évangile sans l'œuvre du Dieu trinitaire, ce salut est réduit à un concept partiel et abstrait. Cependant, lorsque nous prenons la Trinité comme cadre de la foi, notre salut est compris comme l'Évangile complet du salut accompli au sein de l'économie et de la providence de Dieu. Le Dieu trinitaire montre qu'ils ont chacun eu leur propre œuvre dans notre salut. Dieu n'est pas simplement un être isolé et seul, mais est le Dieu qui a existé de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit « Dieu est amour », ce n'est pas une expression émotionnelle, mais une parole qui révèle la manière même d'être de Dieu. Par conséquent, croire en la Trinité, c'est croire au fait que nous avons été invités vers Dieu, dans l'amour de Dieu, qui est dans le plan de Dieu. Cette foi établit également la norme de l'adoration. L'Église primitive confessait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçoivent la même gloire et la même adoration. Si l'on n'adore pas Jésus comme Dieu, ce n'est pas une adoration biblique. Si l'on traite le Saint-Esprit simplement comme une puissance ou une inspiration émotionnelle, c'est une foi incomplète. Si l'on adore seulement le Père, et que l'on marginalise le Fils et le Saint-Esprit, cette adoration n'est pas une adoration complète offerte au Dieu trinitaire. La foi trinitaire est la norme qui définit correctement le centre et la direction de l'adoration. De plus, il faut croire à la doctrine de la Trinité pour comprendre pleinement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean, la voix du Père s'est fait entendre, et le Saint-Esprit est descendu. C'était une preuve montrant que l'œuvre du salut, où Jésus-Christ est baptisé par Jean pour laver les péchés du monde et va à la croix, est l'acte unifié du Dieu trinitaire. La croix et la résurrection n'étaient pas non plus les événements du Fils seul. Le Père a prédestiné l'œuvre, le Fils a obéi, et le Saint-Esprit l'a garanti. Par conséquent, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'Évangile trinitaire, et cet Évangile ne peut être interprété sans la Trinité. Enfin, croire à la doctrine de la Trinité n'est pas un devoir théologique, mais la dignité de la foi. La raison pour laquelle nous croyons cette doctrine n'est pas parce que l'Église l'a décidé, mais parce que Dieu s'est révélé à nous. Le Dieu trinitaire est la déclaration de Dieu, et c'était la providence de Dieu révélée au sein du plan de salut de Dieu. En conclusion, croire à la doctrine de la Trinité est la foi qui accepte l'œuvre complète de salut de Dieu, la volonté du Père, l'obéissance du Fils et l'application de l'Esprit, telle qu'elle est. Une foi qui ne croit pas en la Trinité perd finalement la bénédiction de l'adoration, perd la structure du salut, et perd le centre de l'Évangile. Cependant, la foi qui croit au Dieu trinitaire permet de connaître et de confesser clairement qui est Dieu, de quelle manière Dieu a sauvé les pécheurs, et par la grâce de qui nous vivons. Par conséquent, la foi trinitaire n'est pas une option mais une nécessité, et non une théologie, mais une confession de vie. La doctrine de la Trinité et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont-ils liés ? L'Évangile de l'eau et de l'Esprit était la vérité du salut dans laquelle l'œuvre du Dieu trinitaire a été révélée. Il a montré qu'en sauvant les pécheurs du péché, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre. Le Dieu trinitaire montre qu'il œuvre de manière identique dans la planification, l'exécution et l'application du salut. Dieu le Père a planifié le salut avant la fondation du monde, Dieu le Fils, Jésus, a accompli ce plan dans son corps par son baptême, la croix et la résurrection, et Dieu le Saint-Esprit applique ce salut accompli à ceux qui croient. Par conséquent, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas l'œuvre d'une seule personne de Dieu, mais le résultat de la coopération harmonieuse du Dieu Trinitaire, et l'évangile de l'eau et de l'esprit montre l'ordre du salut contenu en lui à travers des événements spécifiques. Le baptême de Jésus a été le lieu où l'œuvre du Dieu Trinitaire a été révélée le plus clairement. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, Dieu le Fils, Jésus, a été révélé comme celui qui a reçu le baptême de Jean pour prendre sur lui et ôter les péchés du monde, et comme celui qui serait pendu à la croix pour recevoir le jugement pour le péché, et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et Dieu le Père a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 3, verset 17. Cette scène était une proclamation que le commencement du salut des pécheurs était une œuvre planifiée ensemble par le Dieu Trinitaire. En ce lieu, le Père a proclamé, le Fils a pris sur lui et lavé les péchés, et le Saint-Esprit a oint. Par conséquent, le baptême de Jésus était une révélation qui a dévoilé qui est le Saint Dieu Trinitaire, et la réalité qui a montré comment le salut commence et porte du fruit. L'œuvre de Jésus sauvant les pécheurs a été parachevée par sa venue dans ce monde en tant que sauveur, en prenant sur lui et en lavant les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean à l'âge de 30 ans, puis en achevant l'œuvre du salut en étant crucifié sur la croix pour le jugement de nos péchés, en versant son sang, et en ressuscitant d'entre les morts. Cette œuvre de salut a été accomplie d'un coup dans un seul flux de la volonté du Père, de l'obéissance du Fils et de la puissance du Saint-Esprit. La résurrection était aussi un événement accompli par la puissance du Saint-Esprit, et ce n'est que lorsque ce salut est réellement appliqué aux croyants par le Saint-Esprit que le salut devient une réalité pour eux. Par conséquent, l'évangile de l'eau et de l'esprit est le processus concret du salut qui se produit dans le cœur de ceux qui croient à la doctrine de la Trinité. À cet égard, sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la foi en la Trinité reste une doctrine abstraite. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit témoigne pour expliquer qui est le Dieu Trinitaire. Si nous mettons l'accent seulement sur le Dieu Trinitaire, la foi devient un système qui n'existe que dans la tête, et si nous mettons l'accent seulement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devenons incapables de savoir qui est celui qui a accompli tout cet évangile de salut. Lorsque nous connaissons le Dieu Saint Trinitaire et ses œuvres, nous pouvons en venir à savoir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le fruit de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage au salut de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Premier épître de Jean, chapitre 5, dit que l'eau, le sang et l'esprit témoignent comme un seul, où l'eau signifie le baptême que Jésus a reçu de Jean, le sang signifie la croix, et l'esprit signifie celui qui confirme le salut qui vient réellement en ceux qui croient à la parole de l'eau et de l'esprit. La foi en la croix sans le Saint-Esprit n'est qu'un simple système doctrinal, mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui témoigne que ceux qui croient en l'eau et au sang sont les sauvés. Cela signifie que ceux qui croient en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit naissent réellement de nouveau. Cela montre que le salut n'est pas une simple compréhension ou acceptation, mais qu'il est l'Évangile vivant de l'eau et de l'Esprit que le Saint-Esprit confirme de l'intérieur. En conclusion, la foi en la Trinité n'est pas complète sans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peut être expliqué sans la Trinité. Le Dieu Trinitaire est l'architecte de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'événement béni dans lequel ce plan a été réalisé dans le Dieu Saint Trinitaire. La Trinité révèle qui est le vrai Dieu, et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prouve que Dieu a donné le salut à ceux qui croient en étant baptisés par Jean sur cette terre pour prendre sur lui les péchés du monde, en étant crucifié sur la croix pour le jugement de nos péchés et en versant son sang, et en ressuscitant de la mort. Nous pouvons voir que le salut est accompli pour nous lorsque nous croyons en ces deux ensembles, le Dieu Saint Trinitaire et la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les descendants des réformateurs suivent-ils aujourd'hui l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par la foi? Pour énoncer la conclusion, la plupart des églises issues de la tradition de la Réforme demeurent aujourd'hui encore sans une compréhension complète de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Bien qu'elles aient hérité d'une tradition de foi qui respecte les Écritures, croit en Dieu et met l'accent sur le salut, la foi qu'elles détiennent, qui s'accroche uniquement à la croix, présente une différence claire avec l'évangile de l'eau et du sang proclamé par l'Église primitive et accompli personnellement par Jésus. Cette foi reste à l'intérieur d'une structure qui ne met l'accent que sur la croix, et elle n'atteint pas la structure complète du salut qui inclut tous les témoignages de l'eau, du sang et de l'esprit mentionnés dans 1 Épître de Jean, chapitre 5, verset 6. les réformateurs ont provoqué un grand changement spirituel en rétablissant l'autorité de la Bible et en réaffirmant la vérité selon laquelle le salut est accompli par la grâce de Dieu et non par le mérite humain. Leur contribution ne peut être sous-estimée par personne, et ils ont cherché à abattre la théologie du salut centrée sur les sacrements de l'Église médiévale, qui était tordue comme les ténèbres, et à restaurer une foi centrée sur la parole. Cependant, ils n'ont pas restauré la structure entière de l'Évangile. Le point de départ de l'Évangile, le fait que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean, en d'autres termes, la première étape du salut, n'a pas été restaurée, et la réforme s'est arrêtée à une théologie centrée sur la croix. Il est plus correct de voir cela non pas comme leur erreur, mais comme une limitation de l'époque, où les outils et les ressources théologiques étaient insuffisants. Depuis la réforme, la tradition protestante est toujours restée au sein d'une structure de foi basée sur des credos tels que le symbole de Nicée, le symbole d'Athanase et la confession de foi de Westminster. Ils ont compris le salut dans le cadre de la naissance, de la croix et de la résurrection de Jésus, et ont traité le baptême simplement comme un rituel ou une expression de confession de foi. Dans cette structure, l'évangile de l'eau et du sang a été réduit à l'évangile du sang, et le transfert des péchés par le baptême est resté doctrinalement inexpliqué et marginalisé de la sotériologie. À cause de cela, de nombreux croyants protestants aujourd'hui n'ont eu d'autre choix que de vivre leur vie entière avec l'identité de pécheur, au milieu d'une repentance répétitive et de la culpabilité. Ils ont été incapables de jouir de la bénédiction de devenir des gens de foi qui croient que le Seigneur est devenu le Sauveur en étant baptisé par Jean, en ayant les péchés du monde transférés sur lui, en allant à la croix et en recevant le jugement du péché. Ils demeurent dans une structure de foi centrée sur le processus de lutte contre le péché, plutôt que sur l'assurance à savourer au sein de l'évangile du salut qui a déjà été accompli. À cause de la théologie centrée sur la croix créée par le symbole de Nicée, de nombreux saints aujourd'hui répètent encore des questions telles que « Suis-je vraiment un élu de Dieu? Mes péchés ont-ils vraiment été ôtés? Et je me sens encore coupable, alors suis-je sauvé ?» C'est parce qu'ils s'accrochent à la parole de Jésus, selon laquelle la nouvelle naissance s'accomplit par l'eau et l'esprit, en la croyant uniquement comme un concept doctrinal, au lieu d'une expérience réelle de foi. En conséquence, le centre de la foi s'est déplacé de la réalité de l'Évangile vers une compréhension doctrinale et des habitudes religieuses. Cependant, déjà de nombreux croyants et églises dans ce monde reviennent à la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont parle la Bible. Ils restaurent le courant biblique, qui déclare que le premier point de départ de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que le monde avait négligé, était que le baptême que Jésus a reçu de Jean fut le moment du transfert des péchés, et que la croix fut le jugement pour ses péchés. Ce n'est pas un simple intérêt théologique, mais la restauration de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a rouvert à cette époque, et l'on peut dire qu'il participe au courant de la seconde réforme, la restauration de l'évangile de la nouvelle naissance, que la réforme n'a pas réussi à achever. En conclusion, de nombreuses traditions protestantes aujourd'hui ont restauré la foi qui reconnaît la parole de la Bible, mais elles n'ont pas restauré la structure entière de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, Dieu révèle à nouveau devant le monde l'évangile complet auquel l'Église primitive s'accrochait, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, dans lequel les péchés ont été transférés lors du baptême que Jésus a reçu de Jean, le jugement du péché a été accompli sur la croix. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a permis d'obtenir une nouvelle vie. C'est en effet la tâche inachevée laissée par la réforme, et c'est la prochaine étape de foi que l'Église du XXIe siècle doit assurément entreprendre. Quelle est la réforme finale restante après les 500 ans de la réforme protestante? La question que nous posons aujourd'hui n'est pas simplement une conclusion de l'histoire religieuse, mais une question qui déclare clairement la direction où se tient le christianisme aujourd'hui et ce qu'il doit restaurer à l'avenir. Maintenant que 500 ans se sont écoulés depuis la réforme protestante, la réforme finale restante n'est pas la réforme institutionnelle de l'Église, mais la restauration de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit lui-même. Et le cœur de cet évangile est de recouvrer l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui consiste en le baptême que Jésus a reçu de Jean, la croix et la résurrection. La réforme protestante fut un grand événement qui changea la structure de l'Église et la direction de la foi. Les réformateurs, y compris Luther, rendirent l'autorité de l'Église à la parole de Dieu et restaurèrent le principe centré sur la parole selon lequel le salut n'est pas donné par les œuvres humaines, mais par la foi en la parole de l'évangile du salut. Grâce à cela, le sujet de la foi passa du clergé au saint, et la foi fut transformée, elle ne consistait plus en des rituels ecclésiastiques, mais à suivre la parole de la Bible. Cependant, la réforme qu'ils accomplirent ne fut pas celle qui restaura complètement la structure du salut lui-même. La structure de la forme originelle de l'Évangile, dans laquelle Jésus prit sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, ses péchés furent jugés sur la croix, et le salut fut achevé par sa résurrection d'entre les morts, resta non restaurée. La réforme fut un point de départ qui changea la direction, mais ce ne fut pas le point d'achèvement qui restaura l'intégralité de l'Évangile. Par conséquent, la direction dans laquelle l'Église doit avancer aujourd'hui est de retourner à la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Après la réforme, l'Église a démoli les institutions déformées du Moyen Âge, mais elle est tout de même restée au sein du credo théologique et de la structure consistant à croire uniquement en l'Évangile de la croix tel qu'il est énoncé dans le symbole de Nicée. L'Église a compris le commencement du salut uniquement comme la croix, et non le baptême, et le baptême a été réduit à un rituel symbolique plutôt qu'à un événement évangélique. En conséquence, nous pouvons voir que la foi a été réduite à la croyance d'être sauvé uniquement par l'Évangile de la croix, plutôt qu'à la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur a dit dans Jean, chapitre 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous devons nous concentrer sur ce que Jésus a dit. Vous êtes ceux qui avez, jusqu'à présent, encadré votre foi et cru sur la base de l'Évangile de la croix. Mais maintenant, comme le Seigneur l'a dit, vous devez naître de nouveau d'eau et d'esprit. Or, la réforme finale consiste en ce que nous devons écouter, apprendre et croire la parole de Jésus selon laquelle les péchés du monde ont été transférés et lavés par le baptême qu'il a reçu de Jean. L'Évangile que l'Église primitive croyait et prêchait est l'Évangile selon lequel Jésus a reçu le baptême de Jean, a vu les péchés du monde transférés sur son corps, a versé son sang sur la croix et est ressuscité des morts, ayant parfaitement accompli le salut de nos péchés. C'est la structure de l'élimination du péché à laquelle l'eau, le sang et l'esprit rendent témoignage comme un seul. Alors que la structure de l'Évangile de l'eau et de l'esprit disparaissait, l'Église actuelle du XXIe siècle s'est retrouvée piégée dans des doctrines théologiques qui, plutôt que de résoudre le problème du péché, plongent le problème du péché dans la confusion. Pour eux, l'anxiété est restée à la place de l'assurance du salut, et un système de vie religieuse a été parachevé à la place de la grâce du salut. Par conséquent, la réforme finale consiste à passer d'une foi qui repose sur des credos pour revenir à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont parle la parole biblique, et à restaurer notre foi en une foi croyante. Aujourd'hui, de nombreux saints confessent qu'ils croient au symbole des apôtres, mais l'Église primitive proclamait que Jésus a été baptisé par Jean, est mort sur la croix et est ressuscité. Cependant, votre foi actuelle n'est pas une foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, la réforme de la foi est maintenant un processus de restauration passant d'une structure centrée sur la doctrine à une structure centrée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et le contenu de la foi doit retourner et être restauré à la foi qui croit la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et non à la croix qui a été crue jusqu'à présent. La restauration à la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est précisément l'œuvre de restauration du salut des saints. La raison pour laquelle de nombreux croyants perdent leur assurance et errent devant la question « Suis-je vraiment sauvé ?» peut être attribuée au fait de ne pas connaître la parole de l'Évangile de la nouvelle naissance, dans lequel le Seigneur a reçu le baptême de Jean, a vu les péchés du monde transférés, et les a lavés. C'est parce que les chrétiens vivant aujourd'hui au XXIe siècle n'ont pas pleinement connu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Celui qui ne sait pas que les péchés du monde ont été transférés lorsque Jésus a été baptisé par Jean et qui croit seulement en la croix devient un pécheur. Mais si vous souhaitez ne plus rester dans la foi d'un pécheur mais vivre comme celui dont les péchés ont été lavés, vous devez retourner à la foi donnée par la parole de l'Évangile de la vérité, dans laquelle le Seigneur a reçu de Jean et a lavé les péchés du monde. Cette réforme de la foi n'est pas une simple réforme historique, mais la restauration de la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a dit que dans les derniers jours, la fin viendra après que l'Évangile du royaume aura été prêché à toutes les nations. Cet Évangile du royaume est l'Évangile selon lequel Jésus a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde transférés sur lui, et est allé à la croix. Par conséquent, la réforme qui reste maintenant est l'œuvre de rétablissement de l'Église de Dieu par la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et selon cette foi, de se tenir comme un réformateur de l'Évangile dans cette dernière époque. En conclusion, le ministère restant après la réforme protestante est la réforme consistant à retourner à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu dit maintenant la même parole à l'Église du XXIe siècle. C'est-à-dire, se détourner des doctrines théologiques et retourner à la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme la vérité du salut. C'est être sauvé en retournant à la foi de la nouvelle naissance, la foi qui croit non seulement à la croix, mais aussi au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang de la croix. L'Évangile de l'Église primitive vs l'Évangile de la Réforme vs l'Évangile de la dernière époque. Si nous comparons l'Évangile de l'Église primitive, l'Évangile de l'ère de la Réforme et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui doit être restauré à la dernière époque, nous découvrons que l'histoire n'est pas un simple flux répétitif, mais un processus dans lequel l'Évangile a été progressivement restauré. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit que l'Église primitive prêchait était l'Évangile qui croyait et proclamait, tel quel, l'événement du salut, accompli de la mort à la résurrection, dans lequel Jésus a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde transférés sur lui et les a lavés, et a reçu le jugement pour les péchés de l'humanité sur la croix. Pour l'Église primitive, la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur les péchés du monde et les a lavés n'était pas un simple rituel, mais le commencement de la rédemption où les péchés du monde ont été transférés à Jésus. La croix était le lieu du châtiment où ces péchés ont été traités, et le Saint-Esprit est devenu la preuve qui confirme le salut pour ceux qui croient en cet évangile. Les saints de l'Église primitive croyaient au témoignage du baptême de Jésus, du sang et de l'Esprit comme un seul évangile, et dans cette foi, ils vivaient comme ceux qui avaient reçu l'effacement des péchés. Ils ne restaient pas dans une repentance répétitive ou un sentiment de culpabilité, mais devenaient ceux qui vivaient dans la foi qui croient en la parole de l'évangile du salut déjà accompli, et devenaient ceux qui rendaient grâce au Dieu trinitaire. Cependant, avec le temps, les chrétiens, à travers le concile de Nicée qui a eu lieu en 325 après Jésus-Christ, sont devenus ceux qui croyaient seulement en la croix consignée dans le symbole de Nicée comme l'évangile du salut. C'était parce que, par l'ordre de l'empereur, ceux qui ne croyaient pas au symbole de Nicée faisaient face à une persécution sévère, les forçant à vivre leur vie religieuse par une soumission contrainte plutôt que par une obéissance volontaire. Par conséquent, l'évangile de l'eau et de l'esprit a disparu du symbole de Nicée, et seule la parole de l'évangile de la croix est entrée progressivement dans le processus de systématisation en une doctrine théologique. Lorsque l'ère de la réforme est arrivée, Luther et les réformateurs ont essayé de renverser le système de foi que le catholicisme avait corrompu, et de retourner à la Bible. Ils ont restauré l'autorité de la Bible, et ont proclamé puissamment la vérité selon laquelle le salut ne s'obtient pas par les œuvres humaines, mais par la foi et la grâce. Cependant, l'évangile qu'ils ont restauré est resté confiné dans la parole de l'évangile de la croix dont parle le symbole de Nicée. La vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde transférés sur lui, et qu'ils ont été lavés, est bien restée dans les paroles de la Bible, mais parce qu'ils étaient imprégnés de la parole de l'évangile de la croix qu'ils avaient cru et suivi jusqu'alors, ils n'ont pas pu retourner à la parole de l'Évangile selon laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. En conséquence, l'Évangile après la Réforme s'est solidifié dans une structure de la croix de Jésus et la foi, et la parole de l'Évangile de l'eau, du sang et de l'Esprit, qui est le cœur de l'Évangile, semblait disparaître dans l'histoire. L'Église, bâtie sur la foi qui croit en cet Évangile de la croix, s'est figée dans la structure centrée sur la doctrine créée par le symbole de Nicée, et les croyants, vivant tout en restant dans une repentance répétitive et une assurance incomplète au sein d'une doctrine théologique qui les considère comme encore pécheurs, perdaient leur puissance spirituelle. Aujourd'hui, nous nous tenons devant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de la dernière époque. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous devons croire et suivre maintenant est l'Évangile de vérité que l'Église primitive croyait. Cet évangile est devenu la parole de l'évangile dans laquelle Jésus est baptisé par Jean et les péchés du monde sont transférés, ses péchés sont jugés sur la croix, le salut est accompli de la mort à la résurrection, et le Saint-Esprit confirme ce fait à ceux qui croient. Dans cet évangile, nous ne sommes plus des pécheurs mais des enfants de Dieu sans péché, nés de nouveau d'eau et d'esprit. Le baptême que Jésus a reçu de Jean n'est pas une simple cérémonie mais la substance de la rédemption, et le Saint-Esprit n'est pas le domaine de l'expérience mais celui qui habite dans nos cœurs, témoignant de la vérité de l'Évangile. L'Église de la dernière époque doit devenir une communauté qui va au-delà du symbole de Nicée ou des structures centrées sur la doctrine et retourne à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont parle la Bible. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit être témoigné et prêché à nouveau devant toutes les nations du monde. Cet Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'Évangile par lequel Dieu restaure nos âmes, et il devient l'Évangile de la vérité de la foi qui prépare la seconde venue de Jésus. En conclusion, la Réforme a été un mouvement qui a restauré la Bible. Cependant, la Réforme de la dernière époque que Dieu accomplit maintenant consiste à restaurer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit lui-même, à être né de nouveau par la foi, et à rendre gloire au Seigneur. Nous devons avoir la foi que Jésus a été baptisé par Jean pour laver les péchés du monde, a été crucifié, est ressuscité des morts, et est devenu notre Seigneur. Lorsque cet évangile sera proclamé au monde entier, la parole de vérité que Dieu a prophétisée s'accomplira dans le monde entier, et ce sera pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur est celui qui viendra nous prendre du monde de la destruction. Maranatha. Alléluia.